Denis Ollier.
Il y a quelques jours, je regardais un livre sur la période de la Libération, dans lequel il y a une manifestation, la manifestation organisée par le Parti communiste au Père Lachaise en octobre 1944, donc juste après la Libération. Il y a Picasso, c'est quand Picasso vient d'entrer au Parti communiste. Et alors, il y a cette photo, on reconnaît, et que j'avais souvent vu, mais je n'avais jamais regardé de près, on reconnaît tout le monde. Il y a Aragon, il y a Éluard, il y a Picasso. Et puis, il y a une petite silhouette, tout d'un coup, je me dis, mais je connais cette personne. Et c'est en gabardine. Évidemment, c'était Léris, toujours caché par quelqu'un d'autre. Il y a cette espèce de... Il a un côté personnage, c'est ce qu'il dit. Il se définit comme ça, n'est-ce pas, dans les tablettes sportives. Il dit, j'ai jamais voulu être le premier. J'ai toujours voulu être le second. Et c'est vrai, dans ces photos, il est toujours au second plan.
Je pense quelque chose à propos de Léris. Il avait une grande passion d'admirer les gens. On a signalé ça, qu'il admirait d'abord Breton, puis Sartre, puis Césaire, puis à nouveau. Il aimait, et c'était pour mieux se retirer derrière ses admirations. Et je crois que, bon, il n'admirait pas à tort et à travers, il admirait des gens qui le méritaient. Mais je crois qu'il méritait autant que ces personnes-là notre admiration.
Il y a une chose, Édouard Glissant, vous écoutez, qui me vient à l'esprit, c'est une préface du livre de Jean-Paul Sartre sur Mallarmé. Et dans les premières pages, si vous en souvenez, Sartre évoquant le Mallarmé extrêmement poli, celui qui répond toujours, celui qui envoie des fruits rafraîchis, celui qui répond à toutes les lettres, parle d'une espèce de marionnette ou de pantin un peu cassé. Et il y a quelque chose chez Léris de cela, non? Une extrême politesse qui confine à...
Au
spleen, comme on disait au 19e siècle.
Oui, les riches avaient une politesse extraordinaire, même dans sa tenue, sa mise. Mais pas pantin cassé. Non, je crois pas. Pantin cassé, c'est la vision de Sartre à propos de Mallarmé. Moi, je ne pense pas que déjà Mallarmé était un pantin cassé. Et à plus forte raison, Léris. C'est la politesse, l'ennui, la mise, etc. C'était une forme de repli. Ça, maintenir une forme de relation qui est une manière de respecter l'autre. Un petit glacis que l'on met comme ça pour s'empêcher d'être trop intervenant dans les affaires de l'autre. Mais c'est pas pantin cassé. Mais je crois pas que Sartre était capable de percevoir ce genre de situation ou de position complexe. Sartre était assez dichotomique dans la pensée, mais en fait dans l'interprétation des choses. Sartre était grandiloquent, il prenait les choses à bras le corps, etc. Et il ne pouvait peut-être pas comprendre cette espèce de politesse qui n'est pas glacée, mais qui est quand même assez raide, qui est propre à Mallarmé, qui est propre à Léris. On a dit que sous ses apparences de petit professeur bourgeois, petit bourgeois, Mallarmé était un des grands héros du 19e siècle. Et de même, on peut dire que sous ses airs d'homme poli,
Et bourgeois aussi.
Léris a été un des grands voyants de notre temps. Mais il était d'une telle modestie et d'une telle humilité par rapport aux autres qu'il n'a jamais pu se faire à l'idée d'une vérité absolue. qui transcenderait l'individu, qui le porterait, qui l'exalterait, etc. Et ça s'est retrouvé à la fois dans son travail scientifique et dans son œuvre littéraire. Et ça, on pourra y revenir tout de suite, mais ça me paraît la caractéristique fondamentale de Michel Léris. On pourrait prendre ça par un autre aspect. En matière d'ethnographie et d'ethnologie, il est très vite passé de l'ethnologie à prétention de découverte à une ethnologie de pure analyse et de pure observation. Et il est passé d'une ethnologie qui croyait que l'observation des sociétés dites primitives allait fournir des modèles pour la compréhension de sociétés dites plus complexes. Il y a eu des exemples fameux de cela. Il est passé de cela très vite à la conception que ce qui faisait la complexité des sociétés, c'était justement leur caractère de métissage, leur caractère de rencontre, leur caractère de conflit aussi, et que par conséquent, on ne pouvait pas en inférer des vérités générales telles que les théories du structuralisme ont pu en dégager. Et il y a un livre sur cela qui me paraît fondamental, c'est et que personne, enfin qu'on connaît bien moins que les autres livres de Léris, c'est Contact de civilisation en Martinique et en Guadeloupe. Et là, il est en prise avec une société créole, c'est-à-dire une société métisse, c'est-à-dire une société complexe, et il en arrive finalement à ce qu'il désire, c'est-à-dire l'humilité devant les faits, l'humilité devant le réel, et cette espèce de position de repli qui lui permet d'avoir des stratégies d'attachement ou de détachement. Mais c'est quand même extraordinaire qu'un même être ait pu ainsi, d'une part, avoir cette passion de l'admiration pour autrui, et d'autre part, avoir une sorte de politique générale du repli et du changement. Et c'est ce qui fait le caractère fascinant, selon moi, de Michel Léris.
D'ailleurs, à propos de ce livre, Contact de civilisation en Guadeloupe et en Martinique, Édouard Glissant, vous dites « Léris, ethnographe, laisse à vif le réel ainsi abordé ».
Oui, c'est-à-dire que il ne prétend pas interpréter ou trouver la vérité du réel qu'il aborde. Il ne prétend pas ça. On peut dire que d'autres ethnographes ou d'autres ethnologues à la même époque le prétendent. Je pense à Griol, je pense aussi après à Lévi-Strauss, je pense à Léris, il non. Pour moi qui connais bien la situation, par exemple, ou l'existence, ou disons le réel en gros, aux Antilles, je suis frappé par cet aspect du livre de Léris. Il se contente de présenter, de dire, n'est-ce pas ? Et il ne refuse pas la subjectivité. Au moment où il dit, mais il ne laisse pas la subjectivité non plus gauchir ou déformer ce qu'il dit. Et il ne laisse pas la personne Michel Léris avoir une influence telle sur la relation de ce qu'il voit qu'on puisse en inférer une vérité, même pas la vérité du métissage, même pas la vérité de la colonisation, même pas la vérité de ces cultures. Non, il présente simplement, n'est-ce pas ? Et avec un souci du détail qui peut parfois mener à la répétition, Et la répétition est une des vertus de la littérature de Michel Léris. Et là, je crois que la répétition est une des grandes découvertes de la pensée et des littératures modernes.
Tout m'est frappé par la sincérité et l'authenticité du propos, du ton.
Jean Germain.
Y compris par rapport à lui-même, enfin par rapport à soi, Léris ne se fait. N'est pas dans la complaisance, ou alors, si on pourrait dire, il est dans la complaisance un peu masochiste, enfin bon, il se considère comme étant. Un mauvais ethnographe, enfin, où de temps en temps, il déplore de ne pas pouvoir. Avoir une observation distanciée, il ne peut pas regarder les gens comme si c'était des moustiques ou des papillons. Il a besoin de tremper, comme il dit, dans leur chair même. Enfin bon, à propos des possédés, c'est ça. Il dit à un moment, il vaudrait mieux être un possédé que d'étudier les possédés. Bon, et c'est ça qu'il cherche. Mais bien sûr, il ne peut pas y arriver. Au fond, Léris aura poussé. Comme beaucoup d'entre nous, les choses assez loin, c'est-à-dire de se demander s'il vaut mieux, plutôt que d'être un ethnographe des Bororos, s'il vaut mieux pas de devenir un Bororo, quoi. Carrément. Mais tout le problème, c'est qu'il faut revenir. Et c'est bien ça qui lui a posé un problème, du reste. Et sans doute est-ce une des raisons pour lesquelles il a appelé l'Afrique fantôme l'Afrique fantôme. Que cette Afrique devient fantôme au bout d'un certain moment, comme si c'était un rêve.
Il y a aussi le malaise, j'allais dire, de l'homme, enfin le malaise physique par rapport justement aux populations qu'il rencontre.
Oui, encore que cet aspect-là apparaît beaucoup plus dans le journal de route de Gide, dans son voyage au Congo, où là on a quand même des descriptions. Qui ne sont pas d'ailleurs chez Léris, il n'y a pas de description de paysage. Il y a des descriptions aussi chez Gide du système colonial français, alors que Léris c'est par touche. Il n'est pas anticolonialiste, il va avec une mission qui est ouvertement colonialiste, au sens où elle est financée en partie par le ministère des colonies. C'est la raison pour laquelle ça fera à sa parution, enfin, quelques petites vague parce que sur le terrain il ne se prive pas de dénoncer cette façon qu'ont les administrateurs et colons enfin, de vivre et de tirer profit enfin, d'une situation d'exploitation, c'est évident. Mais ça ne sera que par touche. Vraiment,
Mars. Dis-moi que je suis partie. Dépression à nouveau. Comme toujours, sitôt que nous passons 2-3 jours dans un centre. Et nous ne sommes pas prêts d'en partir, le bateau n'étant pas encore arrivé. Télégramme au beau-fils du collectionneur qui nous avait promis d'en hâter le transport. Travail intéressant. Encore une circoncision, avec beaucoup de brimades d'ordre scatologique. Demain, je ferai l'initiation avec le frère aîné de mon informateur d'aujourd'hui. Il s'agit des bandas. Je sais déjà qu'ils ont le boule-roreur. et que, contrairement à ce à quoi nous étions habitués, ce dernier ne semble pas interdit complètement aux femmes. Griol fait des caisses et continue sa chasse acharnée aux insectes. Depuis hier, discussion sur les carnets de route de Gide, que l'administrateur a jugé bon de nous prêter. Je les défends pour le principe, car ce livre a tout de même dénoncé pas mal de cochonneries. Mais toutes les descriptions, si brèves soient-elles, sont décidément bien vaines. On ne peut retracer un paysage, mais tout au plus le recréer, à condition alors de n'essayer aucunement de décrire. Par ailleurs, je désapprouve l'appréciation sur les raies, accumulation d'objets ménagers, poussière, désordre, alors que cette ville, quant à l'intérieur de ses cases tout au moins, est si merveilleusement propre. Et le jugement sur la personne de Ray Bouba, qui est le type même du tyran. Certainement, il cherche moins à se faire craindre qu'à se faire aimer. Écrire un livre de voyage n'est-il pas, il est vrai, une absurde gageure par quelques bouts qu'on s'y prenne.
L'image que l'on a parfois de Michel Léris, c'est celle de l'écrivain, et elle condamne peut-être à sous-estimer l'importance de son travail d'ethnologue, d'ethnographe et d'ethnologue.
Marc Auger.
Or, il y a au moins deux ou trois raisons pour lesquelles je crois ce travail important. La première, c'est la qualité de l'observation. Peut-être que l'on en parlera. Je crois que sur les phénomènes de la possession, il a apporté des analyses très fortes, très pertinentes. Je crois aussi qu'il a été sensible à tous les aspects du phénomène colonial dont l'observation ethnologique ne pouvait pas être séparée. Il en a eu conscience et il l'a dit. Et aussi, il a, plus que d'autres peut-être, senti qu'il y avait quelque chose d'indissociable dans, entre l'observation d'autrui et l'observation de soi-même. Et je pense que Michel Léris, plus que tout autre, et de façon tout à fait pionnière, a su parler de lui au moment où il regardait les autres et a su rendre compte, sous des formes, sous une forme originale, celle du journal tout d'abord, rendre compte de cette espèce d'interpénétration dont évidemment on n'a jamais que l'une des faces, c'est-à-dire que l'on peut savoir ce qui, dans l'image d'autrui, vous perturbe, il est plus difficile de prendre la mesure de ce qu'est l'autre perturbation, même si on sait qu'elle existe. Alors je crois que, au fond, parce qu'il n'avait pas les a priori, au départ, d'un ethnographe professionnel, qu'il a été, je l'ajoute.
Ensuite.
Mais parce qu'il avait cette espèce de fraîcheur, enfin, en parlant de lui, peut-être, a-t-il préservé les conditions d'une observation honnête des autres. Enfin, c'est un petit peu ça, en tout cas, que j'essayais de dire.
J'étais en train de songer, en vous écoutant, Marc Auger, à ce texte de préface au livre de Gilbert Rouget, où il parle d'être hors de soi. Et on a le sentiment, en lisant ce texte donc plus tardif, hein, si vous voulez, qu'au fond, Léris a eu la tentation de cette rupture, de la possession, qui a comme un regret, parce que dans ce même texte, à un moment donné, il dit que la possession est quand même, il dit pas que c'est supérieur, mais il dit que c'est quand même autre chose que l'art ou les jeux occidentaux. Hein.
Alors là, ce qui se fait jour, c'est une espèce de double tentation. Là. C'est ou sortir de soi, ou se découvrir davantage. Je parlais tout à l'heure de la qualité de son ethnographie. Alors, il y a quelques remarques sur les phénomènes de la possession en Éthiopie qui sont très révélatrices, je crois. Il a remarqué que ceux qui faisaient carrière de possédés, en quelque sorte, obtenaient une sorte d'identité supplémentaire, une surcharge d'identité. C'est-à-dire que, à première vue, ça peut sembler paradoxal, puisqu'au fond, ces personnes qui sont possédées par des arts, par d'autres esprits, donc, d'un autre côté, sont présentées comme celles qui ont les personnalités les plus fortes. Alors c'est là qu'interviennent qu'interviennent au moins deux choses. D'une part, il y a des spécialistes qui identifient au départ l'identité de la puissance possédante, le tsar, l'esprit qui vient. Et d'un autre côté, il a recueilli cette confidence de l'un d'entre eux qui dit « Le tsar ressemble à son cheval. » Alors le cheval, c'est celui qui est possédé, n'est-ce pas, par le tsar, puissance possédante. Mais, bizarrement, c'est le tsar qui ressemble à celui qu'il va posséder. Notre image habituelle, c'est que précisément, celui qui est possédé par une puissance quelconque va lui ressembler, parce qu'il va s'identifier aux stéréotypes que l'on en a, esprit bavard, querelleur, ou calme, ou amoureux, ou doux, enfin bien. Là, la proposition est inverse. Mais c'est que, en fait, ces choses-là sont un phénomène social, qu'il y a des spécialistes, et on peut imaginer que dans sa sagesse, celui qui maîtrise l'ensemble de l'opération, initialement, perçoit dans le caractère de celui qui va être possédé quelques traits saillants qui fait qu'au fond, la puissance possédante est un peu choisie en fonction de ça. C'est-à-dire c'est un petit peu l'inverse. D'où ceci que l'on peut affirmer sans contradiction qu'en quelque sorte, l'identité de celui qui est possédé est renforcée par la possession parce qu'elle va, en principe, dans le sens de ce qu'il était déjà. Alors à ce moment-là, c'est intéressant parce que la possession se présente plutôt comme un révélateur que comme un événement radicalement nouveau. Et je crois que les analyses techniques de Léris de ce point de vue sont tout à fait pertinentes et fascinantes. Il reste que parfois dans leur violence, les images de la possession donnent le spectacle de quelqu'un qui est réellement hors de soi. Pour autant qu'on soit jamais en soi, parce que Léris serait sans doute le dernier à présenter du soi une image absolument contournée, ferme, indépassable, etc. Alors je pense que c'est précisément dans ce mixte de suridentification qui est en même temps la sortie de soi, qu'il discerne. Le chemin de quelque chose qui serait simultanément l'affirmation et la sortie de soi, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il redoublerait un peu ce paradoxe de l'identité avec soi-même, qui n'est jamais là, mais jamais non plus complètement conjuré et jamais non plus complètement achevé.
Mais qu'est-ce qu'un jeu ? Un jeu unique et isolé, sans un « tu », sans un « nous », sans un « il », gravitant autour de lui et fournissant matière à une hiérarchie dont il occupe le sommet, personne première et singulière. Arraché du « je, tu, il », retranché du « nous, vous, il », sans parler du « je, tu, elle », le « je », dans d'aussi évidemment absurdes conditions, n'est plus guère qu'un enfant qui, voulant se compter tout seul, récite « Amstram gram, piti piti tolegram, bourré bourré ratatam, mistam gram » et tourne indéfiniment en rond dans cette combinaison de paroles et de mouvements réduite à un vain broudouillement, puisqu'il n'y a pas là de compagnon à la fois opposé et associé à lui pour justifier un tel dénombrement et façonner, en dressant devant lui le môle d'autrui, les limites qui lui confère une existence en tant que corps séparé. Bifur. Thank you.